Louons le Seigneur que ce matin nous puissions avoir une autre communion au sujet de l'Arche de l'Alliance. Ce que nos frères et sœurs ont partagé est un merveilleux résumé de ce que le Seigneur nous a montré hier. Cette Arche de l'Alliance est d'une part notre Seigneur. Cela montre que le Seigneur a tout accompli, mais c'est aussi une boîte qui montre que nous les hommes sommes des récipients. Lorsque nous voyons l'arche de l'alliance et ce qui est à l'intérieur, alors nous devons voir ce que Dieu aimerait déposer en nous aujourd'hui. Hier, c'était si bon de voir ces deux tables de la loi ne doivent pas être suspendues quelque part de manière extérieure, par exemple sur notre porte d'entrée, mais le Seigneur aimerait les inscrire sur nos cœurs. C'est si merveilleux. Dieu n'est pas intéressé à ce que ces règles soient respectées de manière extérieure, mais et que nous soyons éloignés de lui finalement. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur écrit cette loi sur nos cœurs. C'est si merveilleux. Et lorsqu'il écrit cette loi dans nos cœurs, il va faire aussi en sorte pour que nous puissions vivre selon cette loi. Ce matin, nous voulons aussi avoir de la communion au sujet de la verge d'Aaron. Nous devons aussi voir ce que le Seigneur veut mettre en nous. Nous voulons vraiment voir cela. Frères et sœurs, nous ne voulons pas saisir la signification de cette verge d'Aaron, mais nous voulons saisir ce que Christ veut nous dire. Tournons notre cœur. En lisant ce que Moïse nous dit, nous tournons nos cœurs pour voir Christ. Et pendant que nous le voyons, nous croyons aussi que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Je loue le Père que le Seigneur ait un si merveilleux chemin pour nous transformer. Certains d'entre nous ne connaissons peut-être pas l'arrière-plan de cette verge d'Aaron. Je pensais que c'était bien de lire ce passage. Nous sommes dans Romains 7 sur le résumé, dans Nombre 17. Est-ce que quelques frères et sœurs peuvent lire? Ah, je n'ai pas le bon verset. Nombre 17. J'ai pas le bon passage. Est-ce que c'est Exode peut-être? Non. Ouais, je retrouve pas le passage. Ça doit être Nombre, mais. Alors, Sandra qui m'envoie. Merci. C'est Nombre 17, 1 à 10. C'est bizarre. Alors, Nombre 17, 1 à 10. Voilà, c'est ça. 1 à 10. C'est d'autres versets en allemand. Donc, c'est ça qui m'a un peu perturbé. Amen. Merci Seigneur. Tu les déposeras, verset 4, dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël. et tous les princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Donc, versets 1 à 7 en français. Nous savons d'où vient la verge d'Aaron maintenant, lorsque l'arche est venue. Et vous avez remarqué, lorsque les frères ont lu, que le peuple murmurait, et cette verge d'Aaron, dans la situation que nous venons de lire, c'était une réaction de Dieu au murmure du peuple. Et le murmure du peuple était un résultat d'une rébellion. L'arrière-plan, c'est écrit sur le résumé, c'est la réponse de Dieu à la rébellion de la tribu de Corée. Lorsque nous lions nombre 16, le chapitre qui précède cette rébellion est décrite, et le meneur de cette rébellion était Corée, suivi de quelques hommes. Il a rassemblé 250 anciens et des personnes bien vues contre Moïse. Ça, c'est nombre 16. Et le fondement de cette rébellion était: nous sommes tous sont saints. Dieu parle aussi par nous. Dieu agit aussi par nous. C'était leur intention, c'est ce qu'ils ont mis en avant. Et dans nombre 16, cette rébellion était vraiment quelque chose de grave. Dieu a réagi de manière très forte. Moïse a rassemblé tous ces 250 personnes bien vues et les a rassemblés avec leurs ustensiles d'airain et pour voir pour qui Dieu attestait. Et le résultat a été que ceux qui ont dirigé cette rébellion ont été engloutis par la terre. Si le Seigneur fait quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que là on voit que la terre s'est ouverte et puis sont entrés directement vivants dans le séjour des morts, alors Dieu a attesté cela. Et c'est aussi écrit de cette manière. C'était l'arrière-plan. Une telle rébellion terrible. Cette rébellion n'était pas seulement auprès de ces 250 personnes qui sont restées auprès de Corée, mais elle s'est répandue très vite auprès du peuple. Moïse a dit: venez demain devant l'entrée de la tente d'assignation. Au nombre 16, nous voyons que ces hommes ont utilisé ce temps qu'il leur restait jusqu'au lendemain pour influencer toute l'Église. Ils n'ont pas attendu le lendemain pour voir qui Dieu attesterait, mais ils ont influencé toute l'Église avec la rébellion. Nous voyons dans Nombre 16, ils ne sont pas venus seulement les 250, mais ils avaient influencé, ils avaient tiré avec eux toute l'Église. Cela doit vraiment nous montrer la gravité lorsque des personnes qui sont entre guillemets des conducteurs se rebellent contre Dieu. Eh bien, c'est quelque chose de contagieux. Cette rébellion, c'est la mort. Il ne s'agit pas juste d'un péché parmi d'autres, mais il s'agit d'une rébellion contre Dieu et contre sa parole. C'est ça, ça c'est la mort. C'est quelque chose de grave, quelque chose qui est contagieux. Et en l'espace de 24 heures, toute l'Église a été infectée par cette rébellion. Si nous continuons de lire dans Nombre 17, dans le chapitre suivant, la terre avait englouti Corée, et les 250 étaient là avec leur. Ils voulaient aussi apporter de l'encens. Mais ce n'était certainement pas un service à l'autel d'or des parfums. Mais le feu du ciel est descendu et a brûlé ces personnes. Et au début de Nombre 17, de ces brasiers, on a fait des lames et puis on a recouvert l'autel des holocaustes. C'était des brasiers d'airain. Dieu voulait que son peuple se souvienne de cet événement et il a dit qu'il devait prendre ces brasiers et de les transformer en lames en tant qu'un signe, en mémoire de la rébellion, afin que cela ne leur arrive plus. Ça, c'est dans Nombre 17. Afin ça n'arrive plus. Dieu a érigé un signe pour qu'on n'oublie pas cette rébellion. Je crois que le message doit avoir passé. Hein. Moi, je me dis, s'il y a une telle chose qui arrive, nous n'oserons plus faire quelque chose. Mais le verset suivant, le lendemain, c'est verset 8. C'est d'autres versets en français. C'est le lendemain, le peuple a murmuré, toute l'église a murmuré. Même pas 24 heures après, eh bien, tout le peuple a murmuré. C'est vraiment incroyable. Ah, malgré le fait qu'il venait de dire que Dieu lui-même avait détruit tous ces hommes. C'est pas Moïse qui a ouvert la terre. Moïse ne pouvait pas apporter du feu, faire descendre du feu. Ils auraient dû voir que cela venait de Dieu, c'est lui qui avait jugé. Cependant, le lendemain, l'église entière, l'assemblée entière murmurait. Il y a toujours ce poison de la rébellion qui, la veille, avait infecté toute l'église, toute l'assemblée. Pour faire l'histoire courte, c'est Nombre 16:41 en fait. Les versets sont un peu différents en français. 16:41. Moïse et Aaron avaient un cœur pour le peuple et ils ont accompli le service de la rédemption. Prends vite du feu de l'autel et va vite vers le peuple. Et il y avait Moïse et Aaron, ils étaient là. Malgré cette rébellion, ils ont vraiment œuvrer la réconciliation pour le peuple. Si Dieu n'avait pas eu ces deux hommes, eh bien, ça aurait été terminé avec le peuple de Dieu ce jour-là. Dieu aurait anéanti tout le peuple. Que va-t-il faire lorsque le peuple entier se rebelle contre lui? Qu'est-ce qu'il peut faire encore, sans exception? Il doit les exterminer. Mais louez le Seigneur pour Moïse et Aaron. Nous devons aussi être de telles personnes qui, accomplissant vraiment le service de la réconciliation pour le peuple. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple s'est rebellé. Aaron a fait cela, il a porté un brasier, il a couru vers le peuple, car la plaie avait commencé. Il a fait l'expiation pour le peuple. Il y avait déjà 14 700 personnes qui sont mortes de cette plaie. Mais la plaie s'est arrêtée au verset 50. C'est merveilleux. Ce Dieu a voulu exterminer tout le peuple, mais grâce à Aaron et Moïse, cette plaie s'est arrêtée. Ça doit vraiment nous donner une impression à quel point il est important si nous avons un tel service de l'expiation pour le peuple. Si dans la prière, par la prière, nous stoppons la plaie envoyée par Dieu. C'est vraiment merveilleux de voir cela. Ça ne se termine pas ici avec cette rébellion. Et après que Aaron ait arrêté cette plaie, alors vient l'histoire de la verge d'Aaron. Dieu a dû attester qui il a mis en avant, qui est-ce qu'il a. Et tout cela pour faire stopper les murmures, pour casser, pour arrêter cette rébellion. Ça, c'est l'arrière-plan de la verge d'Aaron. Et aujourd'hui, nous devons aussi reconnaître que la rébellion et la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu est quelque chose de grave. Peut-être n'avons-nous pas rebellé comme Corée et sa troupe, mais nous devons reconnaître qu'en chacun d'entre nous, il y a cette semence de la rébellion. Nous avons tous été tôt ou tard rebelles contre la parole de Dieu. Qui d'entre nous n'a jamais murmuré, même dans l'Église, à l'encontre de frères et sœurs? Qui parmi nous peut dire qu'il n'a jamais eu de murmure? Voyons ici que le murmure n'est pas une petite chose. Tu penses peut-être que tu peux murmurer en silence et que personne ne va le voir, mais nous voyons ici dans ce contexte que le murmure est quelque chose de grave. C'est contre Dieu et contre sa parole. Cet arrière-plan que nous venons de lire doit nous donner une profonde réalisation. Seigneur, sauve-moi de toute rébellion. Traite la rébellion. Traite la désobéissance en moi. Vraiment, guéris-moi pleinement. Nous devons vraiment voir que Dieu avait donné un signe extérieur. L'Holocauste était recouvert de ses lames, mais ce n'était pas suffisant. Ce signe extérieur en tant qu'avertissement n'était pas suffisant. Alors il a donné un signe supplémentaire, qui est la verge d'Aaron, qui n'est plus un signe extérieur. Mais cette verge d'Aaron vient d'être placée à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce que c'est comme pour les tables du témoignage, parce que ces signes d'avertissement doivent être en nous. Si ce n'est qu'un signe extérieur, cela n'est pas suffisant, cela ne fonctionne pas, parce que la rébellion est profondément ancrée dans nos cœurs. Recouvrir si nous pensons que nous sommes de tels récipients, cela montre ce que Dieu aimerait déposer en nous. Cette verge d'Aaron doit être en nous. La verge d'Aaron doit être en nous, à l'intérieur. L'autorité de Christ, l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait traiter en profondeur cette rébellion. Il aimerait nous guérir des murmures et de la rébellion. Louez le Seigneur pour la verge d'Aaron. Merci parce que cette verge n'est pas suspendue à la porte d'entrée, mais elle est dans l'arche de la rébellion. Personne ne la voit, mais cela montre qu'elle doit être dans notre être. Louez le Seigneur, si cette verge est en chacun d'entre nous, que le Seigneur puisse déposer une telle verge d'Aaron dans nos cœurs. Nous voyons aussi que cette verge, dans les 10 plaies, cette verge montre l'autorité de Dieu en Égypte, par exemple. Ce n'est pas Moïse qui a accompli les plaies lorsque nous voyons, lisons ces versets sous B. Dieu doit toujours utiliser cette verge pour manifester son autorité. Ce n'est pas un homme. Cette verge est au-dessus de toute autorité. Comme avec ces serpents, lorsque Moïse a transformé les serpents en serpent, sa verge en serpent, les magiciens ont fait la même chose, mais la verge d'Aaron a englouti toutes les autres. Le serpent d'Aaron a englouti tous les autres. Et son autorité est vraiment celle qui est au-dessus de toutes les autres. Dans Nombre 17, au verset 20, où je retrouve juste la correspondance. Les versets ne correspondent pas. Alors, la verge que je choisirai va fleurir, en fait. Et on l'a vu au verset 8, donc 17-8, que c'est la verge d'Aaron qui a fleuri. On voit ici que Aaron a été choisi comme souverain sacrificateur. C'est vraiment une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset Hébreux 5, verset 4. Hébreux 5, 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Ce passage nous montre que avec cette verge d'Aaron, il ne s'agit pas d'Aaron, mais il s'agit de Christ. Comme Aaron, alors aussi Christ. L'écrivain aux Hébreux nous montre que Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit. Dieu a établi Christ pour être souverain sacrificateur. Ce n'est pas un homme qui a fait cela, il le confirme. Avec ce verset qui est une citation, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et c'est très évident dans le psaume 2, verset 6. Si vous voulez savoir qui a été établi par Dieu, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Amen. C'était aussi une réaction à une rébellion. Les rois de la terre, les nations se rebellent contre Dieu. Mais la réponse de Dieu, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Et c'est Jésus-Christ sur ma montagne sainte. Si aujourd'hui nous voulons être Sion, la Jérusalem céleste, alors le Seigneur doit être aussi notre roi, car Dieu a établi son roi sur sa montagne sainte. Ça doit pas être un homme qui doit être établi comme roi, mais le Seigneur est le roi et le souverain sacrificateur. Dieu dit ici qu'il a établi un roi. Si nous allons au psaume 110 aussi, à partir du verset 1 de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Louez le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui a été établi par Dieu, il aimerait régner par nous sur ses ennemis. Au verset 4, nous voyons aussi, il est en même temps roi et aussi souverain sacrificateur. L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est roi et souverain sacrificateur en même temps. Il est la personne que Dieu a établie et choisie. Nous devons vraiment voir cela au travers de la verge d'Aaron. Dieu a dû confirmer Aaron dans l'Ancien Testament par la verge d'Aaron. Mais aujourd'hui, Christ a été établi. Est-ce que c'est vraiment précieux pour nous? 1 Pierre 2, verset 6. On voit ici que c'est quelque chose de précieux lorsqu'il a sa pleine autorité. Il dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Ce matin, lorsque nous sommes tous ensemble, chacun dira, ouais, le Seigneur est mon roi, Amen. Mais est-ce que c'est vraiment précieux? Le fait que ce soit précieux, nous ne le voyons pas par nos paroles, mais par nos actes dans notre vie journalière. C'est la même chose avec l'accès et le rideau. Nous voyons à combien de reprises nous prenons ce chemin, c'est ça qui sera déterminant. Si nous mettons en pratique, si vraiment j'ai reconnu qu'il est le roi que Dieu a établi, alors je reconnaîtrai cela dans ma vie journalière, que je lui obéis et que je vis sous sa domination, sous son autorité. Chacun d'entre nous doit se demander, mais à quel point cette verge d'Aaron est présente dans ma vie? Si Dieu peut mettre cette verge d'Aaron dans l'arche de l'Alliance, alors l'effet sera aussi que nous allons vivre cela en réalité, que nous serons obéissants lorsqu'il parle. 1 Pierre 2 nous dit, pour nous qui croyons, il est vraiment précieux. Si nous sommes vraiment obéissants, alors nous allons expérimenter à quel point cette verge est précieuse dans nos vies. Mais si nous sommes comme les autres, dont il parle Pierre ici, mais pour les incroyants, il est devenu une pierre d'achoppement. Les incrédules, hein? Regardez ce que nous venons de lire. Tout le peuple ici, cette verge d'Aaron, était une pierre d'achoppement. Ils se sont achoppés. Ils ont murmuré, ils se sont rebellés. C'est parce qu'ils sont incrédules qu'ils s'achoppent à cette parole. Comment ça se fait que parfois nous prenons achoppement sur ce que le Seigneur nous dit, quelque chose dans l'Église? C'est parce que nous ne croyons pas en ces paroles. Alors nous devons nous demander, Seigneur, à quel point est-ce que cette verge est réelle dans ma vie journalière? Cela va se refléter dans beaucoup de décisions et beaucoup de choses que je fais dans ma vie journalière. Que le Seigneur nous donne un tel désir que cette verge d'Aaron soit présente dans toute notre marche, que nous soyons vraiment obéissants lorsque le roi nous parle. que je ne prenne pas achoppement sur cette parole, mais que je mélange cela avec de la foi. Il y a des petites décisions que je prends dans ma vie journalière, des grandes décisions aussi. Où est-ce que je vais habiter? Quel est le travail que je vais faire? Où est-ce que je vais investir mon temps? Mais aussi beaucoup, dans beaucoup de détails de la vie quotidienne, le Seigneur aimerait régner avec cette verge d'Aaron. Est-ce que nous laissons cette verge être efficace en nous? Le Seigneur est celui qui a été établi par Dieu. Au verset 23 du nombre 17, il a fleuri. Donc c'est au verset 8, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Nombre 17, verset 8, la verge a fleuri. Nous voyons qu'il n'y a pas seulement des fleurs, elle a poussé des boutons, produit des fleurs et aussi est mûri des amandes. Pendant une nuit, quelle attestation, quelle confirmation de Dieu. Comme cela a été dit, c'est seulement Dieu qui peut faire cela. Si c'était juste une petite feuille, peut-être que les hommes n'auraient pas cru. Mais en une nuit, obtenir des amandes mûries, en fait, c'est impossible. Si c'est juste une feuille, peut-être que on va penser que c'est Moïse qui a collé une feuille pendant la nuit. Mais lorsque Dieu confirme, eh bien, il confirme vraiment de manière indiscutable, afin que tous les hommes doivent reconnaître que seul Dieu a pu faire cela. En fait, ce bout de bois mort, en fait, c'était un morceau de bois mort, c'était même pas un arbre qui avait accès par ses racines à l'eau, mais en une nuit, il a réussi à susciter ses amandes mûries, en une seule nuit. C'est une merveilleuse image sur notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à sa mort et sa résurrection. Le Seigneur est allé dans la mort, il était suspendu à ce bois lorsqu'il était suspendu à un bois mort. Mais loué le Seigneur, il n'est pas resté là, il est ressuscité. Le Seigneur est sorti de la tombe avec des amandes mûries, c'est merveilleux. Dans 1 Corinthiens, il est dit que le Seigneur est ses prémices. Nous avons vu cela sur le chandelier qui a aussi ses prémices, ses fruits. Ce sont les prémices, ceux qui sont mûrs avant les autres. Et le Seigneur est ce prémice qui est mûr avant les autres. Ces amandes mûries montrent vraiment notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité des morts et qui est monté en ascension. C'est trop merveilleux de voir que tant de prophètes ont annoncé le Seigneur avec ce mot germe. C'est pourquoi la verge d'Aaron montre aussi le nom du germe. Lisons un verset merveilleux dans Zacharie 6, verset 12. Zacharie 6, 12 et 13. Est-ce que quelqu'un peut lire ces deux versets? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. C'est merveilleux. Seigneur, j'espère que nous apprécions vraiment ces versets. Ce devoir, ce germe, j'aimerais encourager chacun d'entre vous de manger ces versets aussi, ces versets qui sont donnés dans le résumé. C'est si merveilleux de voir que notre Seigneur est un germe Quel nom pour notre Seigneur! Beaucoup d'autres, son peuple, ne le connaissent peut-être que de la manière du Sauveur. Et la Vierge d'Aaron nous montre un aspect merveilleux, c'est cet aspect du germe. Louez le Seigneur. Le Seigneur a vraiment germé. Il bâtira le temple de l'Éternel. Et de nouveau, cet accent qui est donné, c'est lui qui va bâtir le temple de l'Éternel. Qui bâtit l'Église aujourd'hui? C'est toujours une nouvelle question pour nous. Qui est en train de bâtir l'Église? Comme nous l'avons entendu au début de la conférence, nous sommes le temple de l'Éternel. Il aimerait nous bâtir en tant que ce temple en réalité, cette maison spirituelle, ce saint sacerdoce. Et cela ne fonctionnera que si nous connaissons le Seigneur en tant que ce germe, en tant que celui qui bâtit le temple de l'Éternel. Tant que nous bâtissons, tant que nous sommes des hommes qui bâtissons, alors le Seigneur va se retirer pour que lui puisse bâtir. Et pendant 2000 ans d'histoire de l'Église, cela a montré le résultat. Il y a du chaos, il y a de la division, il y a de la destruction, il y a vraiment un état désastreux. Mais nous, dans l'Église, nous devons connaître le Seigneur en tant que le germe, comme celui qui bâtit le temple. Comme le psaume 10 nous le montre aussi. Le Seigneur doit être celui qui bâtit le Seigneur. Nous bâtissons avec le Seigneur, mais si ce n'est pas, ce doit être le germe qui est l'architecte et le constructeur. Il portera la gloire. Il est celui qui porte la gloire dans l'Église. Si nous connaissons le Seigneur en tant que le germe, si nous connaissons cette verge d'Aaron en réalité, alors l'Église sera merveilleuse. Il y aura la gloire. C'est comme un ornement. Il portera la gloire, Zacharie 6,13. Nous avons contemplé sa gloire. Et dans Ésaïe 22, il y a aussi ce verset, que toute la gloire est accrochée à lui, en fait. Si nous voulons voir une église glorieuse, nous devons connaître le Seigneur en tant que ce germe. Et ce germe nous montre que le Seigneur règne aujourd'hui en ascension. Dans Actes 17, verset 31, nous lisons. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a donné à tous une preuve. De la même manière qu'autrefois Dieu a donné, a prouvé à tout le peuple qu'Aaron a été choisi, par la résurrection de Christ, il a donné la preuve dans la nouvelle alliance qu'il est le juge et le souverain sacrificateur. C'est vraiment merveilleux. La résurrection est la preuve de Dieu. Lorsque je lis ce verset, je vois que je n'ai pas une assez grande conscience encore à quel point la résurrection est importante, à quel point la fête des prémices est si importante aux yeux de Dieu, que Christ est ce germe. Cela nous montre aussi comment le Seigneur règne aujourd'hui. C'est très important pour nous de voir cela. Le Seigneur commence de la puissance de la résurrection. Dans Hébreux 7, verset 16, et nous voyons qu'il nous sert avec cette. C'est pas cette référence-là, mais c'est dans l'hébreu qu'on voit qu'il nous sert par cette résurrection. Il sert en vie de résurrection. Si nous lui obéissons, nous allons expérimenter cette puissance de résurrection. Et nous allons être remplis de sa vie. Il nous sert avec cette vie de résurrection. Cette vie peut engloutir la rébellion qui est en nous. Elle est vraiment profonde. C'est comme cette mort qui est en nous. Mais Dieu a vaincu la mort. Il a englouti la mort. Ce germe nous montre que le Seigneur n'est pas un roi quelconque, mais c'est un roi qui a englouti la mort et qui a appelé en existence la vie et la résurrection. J'espère que ce matin, nous pouvons tous dire, oui, nous croyons. Le Seigneur, en tant que le germe, il peut et il va. Nous devons dire, il va engloutir chaque mort, toute mort en nous. Il aimerait traiter la rébellion qui est si profonde en nous, la plus profonde. Est-ce que nous croyons cela? Nous devons dire, oui, nous croyons. Et celui qui veut peut encore ajouter, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Nous devons vraiment mélanger cette parole donnée ce matin par la foi. Le Seigneur aimerait nous montrer cela au travers de cette verge d'aran qui a fleuri. Que ce roi et sacrificateur peut vraiment engloutir toute mort. Que ne soyons pas comme Sarde qui avait le nom, mais qui était en réalité morte. Cela ne doit pas être ainsi. L'Église ne doit pas être morte. Si l'Église a vraiment la réalité de cette verge d'Aaron, alors elle va vivre en résurrection et il n'y aura plus de mort. J'aimerais vraiment expérimenter cela, comment le Seigneur engloutit toute mort dans toutes les Églises, que ce soit de la rébellion, que ce soit des murmures, que ce soit de la faiblesse. Le Seigneur peut engloutir tout cela. Et il va le faire. Venons à ce germe en résurrection. Et cette verge nous montre aussi que le Seigneur est un berger pour nous. Et c'est merveilleux de voir cela. Je vous encourage de relire le psaume 23 et Jean 10 qui va avec. Le Seigneur est ce bon berger. Et dans le psaume 23, il est écrit, qu'est-ce qu'il fait avec sa verge? Est-ce qu'il frappe les brebis? Non. Verset 4. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le Seigneur, en tant que ce bon berger, utilise ce bâton pour nous rassurer. Et cela montre aussi comment le Seigneur aimerait nous conduire aujourd'hui. Il montre aussi comment il engloutit cette rébellion en nous. Dans Apocalypse, nous voyons souvent cette verge de fer. Les nations, plus tard, le Seigneur va les juger. Les vainqueurs vont dominer avec une verge de fer. Ce n'est plus la grâce. C'est vraiment avec dureté, mais pour nous aujourd'hui, ce bâton n'est pas de fer. C'est un bâton qui a mûri, qui a bourgeonné, comme Jean 1 l'a dit. Le Seigneur est venu plein de grâce et de réalité. Oh Seigneur Jésus, j'espère que ce matin, nous voyons le Seigneur d'une nouvelle manière en tant que ce bon berger. Qui nous paie avec son bâton et qui nous conduit. Il nous paie plein de grâce, plein de réalité, plein d'amour, comme nous l'avons vu aussi. Il nous console, il nous redresse. Il n'est pas de cette manière lorsque nous sommes désobéissants, une fois qu'il sort sa verge et nous frappe. Bien sûr qu'il existe aussi le traitement du Seigneur. Nous devons voir comment il nous traite. Comme un bon berger qui veut apporté à Sion ses brebis. Le psaume 23 se termine par la grâce et le bonheur. Le bonheur et la grâce qui l'accompagnent. Ce Seigneur, en tant que ce bon berger, avec ce bâton qui a fleuri, nous sert avec beaucoup de bonheur et de grâce. Est-ce que nous ne pouvons pas tous témoigner de cela? En fin de compte, nous dirons, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est notre réaction à ce traitement. Et la maison du Seigneur est là où il y a le bon berger. Beaucoup ont dit, j'habiterai dans la maison, je reste ici sur le terrain. Non, je dois être là où est le bon berger. Là, nous voulons habiter jusqu'à la fin de nos jours. Les brebis, dans Jean 10, il est écrit que les brebis connaissent sa voix. Et puis, le Seigneur, ils suivent le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours au même endroit, il bouge. Que nous puissions vraiment suivre ce bon berger. De Jean 10, il a aussi dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Est-ce que vous voyez ici cette verge avec ses fruits d'amande? C'est ce bon berger qui nous donne sa vie de manière surabondante. Et tout à la fin, dans Apocalypse 7, verset 10, vous pourrez le lire vous-même, et nous voyons que les agneaux, les vainqueurs, il est de nouveau question d'un merveilleux berger qui va les paître et qui va les apporter, les conduire et il essuiera toutes larmes de leurs yeux vers des sources. Hein, il va les conduire vers des sources. C'est cette verge d'Aaron qui a fleuri. Le Seigneur n'est pas comme les rois de la terre qui règnent avec force et puissance et violence. Mais le Seigneur est plein de grâce et de vérité, il nous conduit vers des sources d'eau de la vie. Louez le Seigneur, il sauve notre âme. Il prépare une table devant nous, il nous oint. Ce bon berger fait tout pour que ses brebis arrivent au but. Soyons de telles personnes qui écoutons le bon berger, car si nous entendons sa voix, alors, il va pouvoir nous conduire rapidement à maturité. Sur le résumé, en B3, il conduit rapidement à maturité ceux qui lui obéissent. Est-ce que nous pouvons vraiment écrire cela? C'est D3, pardon. Il conduit rapidement à maturité tous ceux qui lui obéissent. J'ai demandé à un frère, est-ce que je peux écrire cela? Ça prend du temps normalement pour conduire à maturité. Mais cette image, nous avons vu que en une seule nuit, les fruits ont paru. Cela nous montre aussi que si nous connaissons cette verge d'Aaron et si nous apprenons à écouter le Seigneur, à lui obéir, alors cette maturité sera accélérée. Le meilleur chemin pour parvenir à maturité, comment est-ce que je viens à maturité? La verge d'Aaron nous montre. C'est si nous lui obéissons. C'est si évident ici. Cette verge qui a mûri et qui a fait paraître ses amandes mûres en tant que ses prémices, nous avons aussi ce but dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons devenir ses prémices. Nous voulons être debout avec toi sur la montagne de Sion. Comment pouvons-nous y parvenir? En lui obéissant. Hébreux 5, verset 9. Hébreux 5, 9. Il est écrit ici, au sujet de notre Seigneur, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Merveilleux. Après que le Seigneur soit devenu cette verge d'Aaron lui-même, en étant devenu ses prémices, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. en tant qu'un berger, comme souverain sacrificateur et comme roi, afin que nous soyons sauvés jusqu'à la perfection. Et le chemin, c'est que nous lui soyons obéissants. Prenons cela de ce message de ce matin. La Vierge d'Aaron nous montre que si nous lui obéissons, il va nous conduire à maturité rapidement. Et dans les quelques années que nous avons encore, il va le faire. Certainement, d'entre nous ont pensé, et parfois nous entendons des frères et sœurs qui disent, comment est-ce que le Seigneur va réussir cela avec moi où il y a tellement de choses encore à transformer? C'est une bonne question. Mais la réponse est, si nous lui sommes obéissants, si nous l'expérimentons en tant que cette verge d'Aaron, alors il pourra aussi nous conduire rapidement à maturité. Dans ces quelques années qui restent, il y a beaucoup de changements qui peuvent être opérés. Alors nous allons faire des progrès qui seront évidents pour tous. À combien de reprises est-ce que le Seigneur parle dans notre vie journalière, nous ne lui obéissons pas? Si nous lui sommes constamment désobéissants, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de fruits. Nous restons les mêmes, nous faisons très peu de progrès. Cela ne peut être que parce que nous ne lui obéissons pas. Prenons vraiment la grâce de cette verge d'Aaron. Prenons cette vie, cette puissance de résurrection contenue dans cette verge. Venons à notre bon berger et disons au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi l'obéissance. Le Seigneur lui-même a dû apprendre l'obéissance. L'obéissance, c'est un apprentissage. Tu ne peux pas être obéissant du jour au lendemain, mais tu dois apprendre l'obéissance. Qui va nous enseigner cela? Ce sera le bon berger, avec cette verge qui lui-même a appris l'obéissance. C'est lui qui va nous enseigner cela. L'onction est en nous aujourd'hui, le bon berger qui, avec cette verge, vit en nous. Il est en tout temps présent pour que nous puissions œuvrer cette obéissance en nous. Faisons aussi notre part. Lorsque la situation vient, prenons la grâce du Seigneur pour lui obéir. Il est aussi notre holocauste pour que nous puissions lui obéir, spécialement lorsqu'il nous parle au sujet de choses qu'il aimerait transformer en nous. Disons au Seigneur, Amen, Seigneur, je prends ta puissance et ta résurrection pour que je change rapidement cette chose en moi. En ces derniers temps, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais rapidement changer les choses en moi, pas si lentement. Je veux pas, lorsque tu me montres quelque chose, je veux pas le remettre au lendemain ou au surlendemain, et en fin de compte, je l'ai oublié. Non, lorsque le Seigneur nous parle aujourd'hui, soyons rapides, réactifs. Disons au Seigneur, Amen, je prends ta grâce juste maintenant pour changer cette chose, que ce soit un péché, une habitude, que nous soyons vraiment réactifs et rapides, que nous soyons absolus et disons au Seigneur, Seigneur, je coupe cette chose aujourd'hui. Comme le verset a été donné hier, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. C'est si important lorsque nous parlons d'obéissance que nous puissions aujourd'hui obéir à sa voix. Nous soyons rapides à lui obéir. Quoi qu'il nous montre, ce sera si merveilleux si en chacun d'entre nous, il y ait des progrès qui soient évidents pour tous. Représentez-vous chez tous les saints, nous voyons des progrès évidents. Ce sera la gloire. Parce que nous connaissons ce berger, parce que nous connaissons cette verge d'Aaron, louons le Seigneur. Lisons encore un passage pour terminer au sujet de ce germe, Ésaïe 43, 18 et 19. Ésaïe 43, 18 et 19. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, une chose qui germe, en fait, en français. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Voici, je fais une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Louons le Seigneur pour ce merveilleux germe. En allemand, c'est vraiment la traduction sur le point d'arriver, c'est ce qui est en train de germer, en fait. Chers frères et sœurs, oubliez vraiment ce qui est en arrière. Le Seigneur nous dit ici, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Nous devons vraiment oublier. Si nous pensons, oh Seigneur, cette chose me dérange depuis 10 ans, comment est-ce que je peux changer? Nous oublie cela. Si aujourd'hui le Seigneur te parle, viens maintenant au germe. Dis au Seigneur, dans Ésaïe 43, verset 19, tu dis, voici que tu fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est maintenant qu'elle germe. J'apprécie vraiment cette parole. Le Seigneur dit maintenant, maintenant est le temps. Nous pouvons vraiment oublier ce qui est en arrière. Tout ce qui était impossible pendant des décennies, et même cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout est si dur, tout est si figé, qui nous paraît impossible, mais le Seigneur est le germe. Le Seigneur est le germe, et le Seigneur germe là où c'est impossible pour les hommes. Pensez à cette verge d'Aaron. Si vous avez cette pensée, cette chose est impossible, mais comment est-ce que ça va se faire? Comment c'est possible de changer quelque chose dans cette situation? Pensez à cette verge d'Aaron, ce bout de bois qui était mort. Eh bien, Dieu a pu faire paraître ses amandes mûries en une seule nuit. Le Seigneur œuvre quelque chose de nouveau dans nos vies. Partout, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau et le faire germer aujourd'hui. Je me réjouis de ce temps qui va suivre la conférence. À quel point ces choses vont germer dans la vie des frères et sœurs. Même dans le désert, le Seigneur veut préparer un chemin. Croyons vraiment au Seigneur. Toute la parole que nous entendons, nous devons la mélanger avec la foi. Alors elle paraîtra en existence. Mélangeons cette parole avec la foi. Peu importe où nous trouvons que quelque chose de nouveau puisse germer. Et ces années qui nous restent, nous les consacrons au Seigneur. En fin de compte, le Seigneur va faire de nous tous des amandes mûries. Louez le Seigneur pour Christ le germe.